Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant mort et résurrection de Jésus. Vérité ou mythe? Nous arrivons à l'étude numéro 10 et le thème sera doute sur la réalité de la résurrection. Saint Jean, chapitre 20, versets 24 à 31. Il est dit que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus est venu. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant totalement fermées, et Jésus se présenta au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. » Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son saint nom. Saint Matthieu, chapitre 20, versets 24 à 31. Le doute est une sorte de rite de passage. Dans ce cas, il s'inscrit tout simplement dans un processus normal de développement intellectuel. Par exemple, un enfant naît et grandit au sein d'une famille résolument chrétienne et son éducation scolaire privée, même que c'est une scolarité de haute gamme, ne remet pas en question les valeurs familiales qui lui sont inculquées. À son arrivée à l'université, par contre, ce jeune se voit attaqué de tous les côtés dans ses croyances, de sorte que les fondements de sa foi en sont ébranlés pour un temps. Un professeur de sociologie, peut-être, amorcera une discussion en disant, voyons, Paul, tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tes parents aussi sont chrétiens? Et Paul de répondre, oui, c'est vrai. Penses-tu que ton arrière-plan familial chrétien a pu avoir un effet sur toi? Et que cela explique en grande partie comment il se fait que tu sois chrétien aujourd'hui. Bien entendu, répond notre jeune ami. Tu vois ici, tout près de toi, Abdoul. Il est là, assis à côté de toi. Il vient d'une famille musulmane, lui. Crois-tu que son héritage familial a une influence marquante sur lui et que cela explique pourquoi il est musulman? Je suppose que oui. Donc, si tu es chrétien à cause de ton arrière-plan familial, et si Abdul est musulman à cause du sien, qui a le droit de trancher et de dire que l'un est dans l'erreur et l'autre dans la vérité? Brusquement et sur une dizaine de fronts à la fois, ce qui était si clair et limpide pour ce jeune homme s'embrouille douloureusement. S'ensuit alors une période de doute, de lutte, de lecture, de discussion, de retour sur soi, et peut-être même de désespoir, avant que tout se clarifie à nouveau et qu'il retrouve une position stable et lumineuse à l'autre bout du tunnel. Voyez-vous, nous vivons dans un monde déchu, qui ne manque pas de raisons pour rejeter la foi. Une période de doute comme celle que je viens de décrire peut donc parfois faire partie d'un processus divinement orchestré au moyen duquel de jeunes croyants viennent aux prises avec les fondements de leur foi et apprennent à discerner quelque part de celle-ci que dérive ou dérive leur héritage familial et quelle part découle d'une conviction profondément personnelle. Voyez-vous, parfois, le doute n'est pas engendré par un choix libéré de nature philosophique et systématique, mais plutôt par l'enchaînement de mille et une décisions d'ordre totalement mineur. Par exemple, un homme amorce sa vie adulte avec de fermes convictions chrétiennes qui produisent en lui des fruits tangibles de piété. Il s'adonne fidèlement à la prière, à la lecture de la Sainte Bible et au témoignage chrétien. Puis quelque part sur son parcours, il cesse de lire la Sainte Bible et prie de moins en moins. Les pressions au travail ou les obligations croissantes l'obligent à réduire à un strict minimum sa participation aux assemblées de l'Église. Une charmante collègue ou une jeune assistante au travail lui semble tout à coup bien plus empathique et compréhensive que son épouse envers sa personne et les pressions qu'il vit. Et quelques années plus tard, voilà qu'il se réveille auprès d'une femme avec qui il n'avait jamais dû ou il n'aurait jamais dû coucher. Il va dans la salle de bain, il se regarde dans le miroir et il marmonne. De toute façon, je crois que je n'ai jamais vraiment cru à toutes ces inepties religieuses. Comment en est-il arrivé là? Comment? Ce revirement dans sa vie ne provient pas d'un problème philosophique avec lequel il a longuement lutté, et encore moins d'un élément de preuve scientifique ou historique qui aurait produit un changement dans ses convictions. Ce n'est même pas une décision mûrement pondérée. Ce sont simplement mille et une petites décisions, chacune d'elles, hélas, mauvaise. Mais le résultat est le même. Cet homme doute à présent des éléments essentiels de la foi chrétienne. Serez-vous surpris si je dis que le doute peut aussi provenir d'un banal manque de sommeil? Si vous brûlez la chandelle par les deux bouts, vous finirez tôt ou tard par laisser un cynisme féroce vous gagner. Il est vrai que nous sommes tous différents sur ce plan. Certaines personnes ont besoin de plus ou moins d'heures de sommeil que d'autres. De plus, certains s'adaptent mieux à la fatigue que d'autres. Toutefois, si vous êtes du nombre de ceux qui deviennent déplaisants, cyniques ou assaillis par le doute lorsque vous êtes privé du sommeil dont vous avez besoin, alors il est moralement impératif que vous remédiez à cette privation. Nous sommes des êtres entiers et complexes. Notre bien-être spirituel est lié à notre existence physique, à notre attitude mentale, à nos relations avec les autres, y compris à notre relation avec Dieu. Parfois, l'activité la plus sainte à laquelle on puisse se livrer dans la vie est de passer une bonne nuit de sommeil, et non de passer toute une nuit en veillée de prière uniquement. Oui, tout simplement, pourquoi pas dormir. Je ne nie pas qu'il y ait des moments où il est juste et bon de prier toute la nuit. Je ne fais que souligner que dans le cours normal des choses, une saine et sainte discipline nous impose de procurer à notre corps le sommeil dont il a, hélas, besoin. Le doute peut encore naître d'une quelconque crise profonde existentielle, la perte d'un être cher, par exemple, ou le souvenir de parents coupables d'abus terribles envers nous, ou quelques autres souffrances aiguës. De telles expériences peuvent, bien sûr, inciter le croyant à placer une entière confiance dans la providence souveraine et dans la bonté de Dieu. Il arrive aussi que celui qui jusque-là restait ferme dans la foi parce que tout allait bien, se met à vaciller lorsque un trouble majeur survient dans sa vie. Alors brusquement, le doute peut surgir. Les doutes que je viens d'énumérer ne sont pas les seuls, tant s'en faut. Voici le point capital de ce que je dis. Si les causes du doute sont diverses, le remède qu'il faut appliquer le sera aussi. La solution du sommeil ne sera d'aucun secours à celui dont le doute résulte d'un environnement moral. L'instruction qui a pour but de pallier le manque de connaissances n'aura pas d'effet sur le doute qui découle du manque de sommeil et ainsi de suite. Dans notre passage cité, l'apôtre Jean ne vise pas à apporter une réponse universelle à la question du doute. Il s'intéresse au doute bien particulier de Thomas. Il importe par conséquent de comprendre la nature précise du doute qui assaille ce disciple. Dans le cas contraire, nous risquerions de fausser la signification et la portée du passage. Les diverses formes de doute que j'ai mentionnées apparaissent à un endroit ou à un autre dans la Sainte Bible, mais ce passage fait état d'une forme toute particulière. Pour commencer, rappelons le contexte du récit. Jésus a été crucifié, et pour tout dire, ses disciples ne s'attendaient pas du tout à cette tournure tragique des événements. En dépit du fait qu'il leur avait parlé à plusieurs reprises de sa mort imminente et de la résurrection qui devait s'en suivre, eux n'avaient rien compris. Peut-être pensaient-ils que le maître employait un langage uniquement symbolique. Un problème majeur se pose dans leur esprit, car ils n'ont pas de catégorie théologique sous lesquelles ranger la notion, je dis bien ranger la notion d'un Messie qui aurait été crucifié. Car un Messie triomphe toujours. Un Messie véritable est toujours vainqueur. De ce fait, ils ne peuvent s'attendre à ce que Jésus ressuscite d'entre les morts. La preuve la plus probante en est leur attitude après son ensevelissement. Ils n'organisent pas une fête dans la chambre haute tout en jubilant et en se donnant de grandes accolades et en disant les uns aux autres « Vivement dimanche !» Au contraire, ils sont affligés d'une profonde tristesse et ils tremblent de crainte à l'idée que les autorités juives pourraient maintenant s'en prendre même à eux. Donc, au matin du jour de la résurrection, le bruit commence à filtrer que le tombeau, qu'il est vide, et que Jésus ressuscité est même apparu à un groupe de femmes. Peu après, l'apôtre Pierre et Jean sont témoins du tombeau vide. Ensuite, Jésus apparaît à l'apôtre Pierre, puis encore à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et le soir de ce premier dimanche, il apparaît à ses apôtres, non pas à tous les 12, car Judas Iscariote s'est, comme vous le savez, suicidé, et Thomas est absent. Nous pouvons maintenant reprendre le récit à partir de notre texte. Découpons donc sa lecture en trois temps. Premièrement, nous avons le cri du cœur d'un sceptique qui est déçu. Saint Jean, chapitre 20, versets 24 et 25. De quelle sorte de doute s'agit-il ici? Certainement pas du scepticisme d'un philosophe matérialiste, de quelqu'un pour qui seul existe la matière, l'énergie, l'espace et le temps, et pour qui les miracles sont tout simplement impossibles. Après tout, Thomas est un juif pieux, vraiment religieux, du premier siècle. Il croit fermement au Dieu de l'Ancien Testament, à Yahvé l'Éternel, qui de façon certaine a accompli des miracles, le cas échéant. Il n'est pas non plus aux prises avec un doute qui découle d'un revirement moral ou d'un état de grande fatigue. De quelle sorte de doute s'agit-il alors? Le contexte montre qu'il correspond à la méfiance de quelqu'un qui a éprouvé une déception religieuse extrêmement profonde et qui refuse d'être de nouveau déçu. Thomas a cru intensément que Jésus était bel et bien le Messie promis. Mais la crucifixion barbare qu'il a subie a complètement invalidé cette ferme conviction. Jésus est mort, alors il ne sera plus jamais là. Et pour Thomas, prendre ses souhaits pour des réalités ne renferme aucune noblesse d'âme. Le doute qui l'assaille, c'est celui qui veut distinguer la foi authentique d'une simple crédulité. C'est donc le doute de celui qui a vécu un profond désillusionnement religieux et qui ne veut pas être dupé une seconde fois. Il y a quelques années de cela, il y avait en Californie un guérisseur du nom de Popov. J'aime pas beaucoup vous raconter cette histoire, mais comme elle est authentique, nous ne ferons pas une polémique là-dessus, ni des critiques acerbes, mais le fait est là. Popov usait d'une technique qui finit par attirer l'attention des médias. À un moment donné, au cours de la réunion, Popov s'écriait « J'entends maintenant le Seigneur qui me parle. Il me dit qu'il y a une dame qui est assise sur le siège IJ 42 et qui souffre d'un mal de dos terrible. Madame, s'il vous plaît, avancez-vous pour être guéri maintenant. » De fait, il y avait bien là une femme à cette place, et elle avait effectivement un mal de dos. Les journalistes interviewèrent ces personnes, mais sans jamais découvrir de preuve d'une quelconque collusion avec Popov. Or, une certaine chaîne de télévision envoya un jour une équipe enquêter sur place. Outre une caméra vidéo miniaturisée, les techniciens se sont munis d'un petit scanner d'ondes radio, car ils avaient remarqué que Popov portait un appareil auditif au creux de l'oreille, et cela avait éveillé leurs soupçons. Je passe sous silence la question de savoir pourquoi un guérisseur célèbre portait un tel appareil. Voici donc comment les choses se passèrent. Alors que les gens arrivaient, on leur donnait une petite carte sur laquelle ils inscrivaient des requêtes de prière. Madame Popov, elle se trouvait parmi les préposés à l'accueil. Lorsque une carte portait une requête de prière du genre « Je suis atteint d'un cancer en phase terminale et les médecins me donnent 6 mois à vivre, priez pour moi, s'il vous plaît. » Eh bien, on écartait cette carte beaucoup trop dangereuse. Mais en revanche, si quelqu'un avait noté qu'il ou elle souffrait simplement d'un mal qui avait de grandes chances d'être, au moins en partie, d'origine psychosomatique, comme un mal de dos, un mal de tête, alors Madame Popov observait où la personne s'asseyait et elle notait par exemple « Femme, siège IJ 42, mal de dos. » Et pendant la réunion, elle transmettait le renseignement par radio à son mari, c'est-à-dire à son oreille. Celui-ci captait l'information grâce à son appareil auditif, qui en réalité était un récepteur radio miniaturisé. Il entendait alors son épouse lui dire « Il y a une femme assise au IJ 42 qui souffre d'un affreux mal de dos. » Bien sûr, la foule ignorait tout cela. Elle n'entendait que ce que Pof disait en scène. Alors l'équipe de télévision fit son reportage en deux temps sur une chaîne nationale. Ils passèrent d'abord la scène du point de vue de l'auditoire, puis ils la repassèrent en insérant le signal radio de Madame Popov qu'il avait capté. Je ne peux résister à l'envie de dire que, hélas, le ministère pipé de M. Popov, évangéliste de renom, a fait tout simplement flop. Pourquoi raconter cette anecdote ? Certainement pas pour dire que Dieu ne peut pas accomplir de guérison s'il le veut, ni que les guérisseurs sont tous des charlatans et des illusionnistes. Mais je veux souligner le fait que parmi ces milliers de gens que le ministère de Popov dupait, il y avait sans aucun doute un certain nombre de chrétiens, mais des chrétiens foncièrement naïfs. Ils se sont laissés berner par le subterfuge de Popov, car ils étaient incapables de distinguer une foi qui serait authentique d'une crédulité pure et simple. Ces gens étaient donc tellement désireux de croire au miraculeux qu'ils étaient crédules jusqu'à en être devenus bêtes. Thomas, lui, refusait d'être compté au nombre des crédules et des naïfs de ce monde. Alors, il réclame la démonstration la plus personnelle et tangible à laquelle il peut penser. Il demande quelque chose qui prouvera que cette apparition d'un Jésus ressuscité possède un lien authentique et physique avec le Jésus qu'on a mis au tombeau. Thomas a besoin d'une preuve patente que le Jésus qui est mort n'est pas en rupture avec celui que l'on dit être ressuscité. Il refuse donc de se laisser berner par, disons, l'apparition soudaine et opportune d'un frère jumeau. Ça peut exister. Alors il déclare, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Saint Jean chapitre 20, verset 25. Jadis, les Romains exécutaient les condamnés de trois façons, mais la crucifixion était de loin la plus cruelle de toutes. On la réservait uniquement aux esclaves, aux traîtres et aux pires criminels. On ne pouvait pas exécuter un citoyen romain par crucifixion sans une autorisation expresse de l'empereur. Comme on le sait, le supplicié était lié ou cloué sur une croix. Dans cette position, sa cage thoraxique se trouvait fortement comprimé, et en tirant de ses bras et en poussant de ses jambes, le crucifié devait faire de grandes et terribles douloureuses efforts pour la dégager un tant soit peu, pour arriver à respirer aussi peu soit-il. Et très vite, des spasmes musculaires très violents s'emparaient de lui et il s'affaissait dans d'atroces souffrances. Mais il lui fallut respirer. Alors il commençait à tirer les bras et à pousser les jambes. Et le cycle infernal reprenait. Voyez-vous, cela pouvait parfois durer des jours, jusqu'à ce qu'il meure par suffocation. C'était des douleurs terribles, inimaginables, jour et nuit. Si pour quelque raison les soldats voulaient achever plus rapidement les victimes, à la veille, par exemple, d'une fête religieuse, où il fallait descendre les corps de la croix pour les enterrer, comme ce fut le cas lors de la crucifixion de Jésus, alors ils brisèrent les jambes des condamnés violemment, alors ils étaient incapables de pousser avec les jambes et les crucifiés suffoquaient beaucoup plus rapidement. Quand les soldats sont arrivés près de Jésus, celui-ci était déjà mort. Au lieu de lui briser les jambes, un soldat lui a enfoncé sa lance sous la cage thoracique, transperçant le péricarde. Il en sortit de l'eau et du sang, et le corps de Jésus portait donc des marques distinctives. Lorsque Joseph d'Arimathée le déposa soigneusement dans son tombeau. Et Thomas sait tout cela. Et c'est pourquoi il demande à voir et à toucher non seulement les marques dans les mains et dans les pieds de Jésus, mais aussi dans son côté. Il lui faut éliminer toute possibilité d'ambiguïté, d'hallucination ou de stratagème pour être certain absolu qu'il y a un lien physique, authentique entre ce Jésus prédûment ressuscité et celui que l'on a descendu mort de la croix et mis au tombeau. Thomas insiste donc. Seule cette preuve lui permettra de lever ses doutes, car il refuse d'être la victime d'une crédulité naïve. En outre, il trouve peut-être extrêmement difficile d'imaginer que le Messie véritable ait pu connaître une telle honte. Et ceci le pousse à demander tant de preuves. En effet, dans l'Antiquité, la crucifixion n'était pas seulement un supplice physiquement horrible, mais on l'associait aussi au plus infâme déshonneur. Et c'est pourquoi le disciple a besoin de réunir des éléments de preuve très convaincants pour se persuader que Jésus est bel et bien le Messie qu'il a tant attendu et que ce Messie est à présent véritablement ressuscité et vivant et triomphant. Dans ce premier temps du récit, nous entendons le cri du cœur d'un sceptique déçu. Deuxièmement, chers amis, nous avons l'adoration d'un sceptique qui est stupéfait. Notez Saint Jean, chapitre 20, versets 26 à 28. Cette nouvelle scène se produit 8 jours après, c'est-à-dire le dimanche après celui de la résurrection. Les circonstances sont similaires. Les apôtres sont dans la maison avec les portes fermées. Tout comme il a fait le premier dimanche, Jésus apparaît soudain au milieu d'eux. Les évangiles ne font état d'aucune apparition semblable à celle-ci avant la résurrection. Jésus les salue comme lors du premier dimanche. La paix soit avec vous. En surface, il s'agit probablement de la salutation traditionnelle Shalom, Shalom. D'un autre côté, le terme Shalom revêt souvent une dimension de bien-être véritable devant Dieu. Dans ce contexte, le terme est sans doute enrichi d'une connotation d'espérance eschatologique. Depuis les événements de la croix et de la résurrection, hommes et femmes peuvent véritablement connaître la réconciliation ultime, la paix avec Dieu lui-même, en attendant la paix parfaite avec lui au dernier jour. Prêtons maintenant attention à ce que Jésus dit ensuite. Il se tourne maintenant vers Thomas. Et bien qu'il n'ait pas été physiquement présent lorsque ce dernier a formulé avec force son objection, Jésus sait parfaitement quelles sont les preuves que Thomas réclame. Il lui dit, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas te répondre, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Cette confession est stupéfiante. Dans un certain sens, elle reprend à la fin du livre ce que Saint Jean a déjà introduit dès les premières lignes de son évangile, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Saint Jean chapitre 1, verset 1. Il nous faut résister à l'envie de passer rapidement sur cette confession, car elle est riche à divers titres et il importe d'en sonder les profondeurs sur les plans interprétatifs, plutôt interprétatifs, c'est-à-dire historique et théologique, et je ferai maintenant observer ceci. Premièrement, la plupart d'entre nous, je suppose, savent très bien que les témoins de Jéhovah ont beaucoup de mal à prendre ce verset au pied de la lettre. Ils ne croient pas tellement que Jésus est véritablement Dieu, bien que, depuis quelque temps, ils modifient sans arrêt leur théologie et ils essayent de s'approcher de ceux qui sont évangéliques. Eh bien, dans le meilleur des cas, Jésus est pour eux un Dieu au fond de second rang, bien que, officiellement, ils ne le reconnaissent pas devant des gens qui les questionnent. Ils sont prudents. Ils proposent donc 2 interprétations différentes du verset 28 pour en domestiquer le sens et la portée afin de l'harmoniser avec leur compréhension et de la personne de Christ. Je ne vais signaler qu'une seule de ces interprétations. Ils soutiennent qu'ici Thomas laisse en quelque sorte jaillir une interjection de surprise. Mon Seigneur, mon Dieu, il est difficile de prendre cette interprétation vraiment au sérieux. Cela voudrait dire que la première réaction de Thomas, après avoir vu Jésus et reçu l'invitation de toucher son corps ressuscité, serait plutôt de nature blasphématoire. Chaque culture possède ses expressions vulgaires, mais il est tout bonnement impossible d'imaginer qu'un juif pieux comme Thomas puisse prendre le mot de Dieu comme une interjection profane. Et plus grave encore, même en imaginant un seul instant qu'il puisse blasphémer de cette façon, cela voudrait dire que Jésus le cautionne, puisqu'il approuve les paroles de son disciple au verset suivant. Mais par-dessus tout, le petit mot « est » se dresse contre cette interprétation. Même si on pouvait imaginer que Thomas puisse blasphémer en disant « Mon Seigneur, mon Dieu », il est tout simplement ridicule d'imaginer qu'il le fasse en s'exclamant « Mon Seigneur et mon Dieu, et mon Dieu ». À n'en pas douter, il faut prendre ce verset au pied de la lettre. Thomas, un juif monothéiste du premier siècle, s'adresse à Jésus. Celui qui est ressuscité avec cette confession stupéfiante, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette remarque nous conduit à une deuxième observation. Deuxièmement, si nous lisons la confession de Thomas dans son contexte, elle est franchement renversante. Comment se fait-il qu'il aille aussi loin, délesté du scepticisme qui le tenaillait? Thomas sait maintenant que Jésus est vraiment ressuscité des morts. Il voit maintenant les marques et il est certain que le Jésus qu'il voit devant lui, n'est pas en rupture avec celui que l'on a descendu de la croix et déposé dans un tombeau. Pourquoi alors ne se contente-t-il pas de s'exclamer « Jésus, tu es bel et bien vivant » ou même dans un tout autre registre, pourquoi ne dit-il pas « mince alors » à première vue? On ne peut s'empêcher de se demander ce qui a bien pu se passer ou pousser à laisser échapper une exclamation d'une telle profondeur, l'expression d'un revirement qui va au-delà de ce que le contexte du passage semble justifier. Donc, pour comprendre, il est nécessaire de situer Thomas dans la totalité du cadre du récit. Rappelons-nous qu'il s'écoule toute une semaine dans le récit entre les versets 25 et 26. Le verset 26 de Jean, chapitre 20, précise que Jésus apparaît à Thomas une semaine après que ce dernier a exprimé ses doutes. Il est donc facile de l'imaginer en proie à d'intenses réflexions au cours de ces 8 jours. On peut assez bien deviner ce qui devait occuper ses pensées et son imagination. Jésus est maintenant vivant. Ça paraît impossible. Pourtant, les autres en ont une telle certitude. Ils doivent faire erreur. Mais, à supposer qu'ils aient tout de même raison, est-il possible qu'ils soient vraiment vivants? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Non, cela ne se peut pas. Il me faut donc une preuve formelle. Il ne peut pas être vivant, mais supposons tout de même qu'il le soit. Va savoir, on ne sait jamais. Aussi aux prises avec un tel conflit intérieur, Thomas ne peut certainement pas s'empêcher de repenser aux paroles étranges que Jésus a prononcées à peine quelques jours plus tôt, c'est-à-dire la nuit où il a été trahi, condamné, puis crucifié. Il a dit à l'un d'eux, en présence de tous, du reste, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Saint Jean 14, verset 9. Thomas et les autres n'ont sans doute pas compris grand-chose de ces paroles, et ils les ont prises comme une énigme de plus. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, ne vient-elle pas nourrir une réflexion nouvelle en ce qui concerne sa personne, ce que lui-même en disait? Quand il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », quelle déclaration! D'ailleurs, l'évangile selon saint Jean contient toute une série de déclarations tout aussi stupéfiantes tirées de la bouche même de Jésus. Jésus affirme par exemple que Dieu lui a remis tout jugement afin que tous honore le Fils comme ils honorent le Père. Chapitre 5, verset 23. Ailleurs, il déclare, avant que Abraham fût, je suis. Chapitre 8, verset 58. Ça veut tout dire. Et encore, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Chapitre 5, verset 19. De prime abord, ces affirmations quant à son identité sont tout simplement inouïes. Après la résurrection, Thomas se voit sans doute, sans aucun doute. Il se voit forcé de réfléchir à ces choses beaucoup plus profondément qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Il avait écouté que superficiellement jusqu'à présent. Or, tout ce que nous venons de dire découle directement du récit du quatrième évangile dans son entier. Saint Jean fournit le cadre narratif dans lequel vient s'inscrire le conflit qui fait rage en Thomas au cours de la semaine qui débute par l'expression franche et direct de ses doutes sur la résurrection de Jésus et qui se termine sur cette confession stupéfiante « Mon Seigneur et mon Dieu, tenons donc compte aussi de deux autres contextes encore plus larges. » Oui, les autres récits évangéliques constituent le premier de ces contextes. N'oubliez pas que Thomas fait partie des 12 dans les évangiles synoptiques. Il était donc présent lors d'un grand nombre d'événements que ne rapporte pas l'évangile uniquement selon Jean. L'un d'eux mérite notre attention. Souvenons-nous du récit au chapitre 2 de Saint Marc. Jésus enseigne dans une maison qui est remplie à craquer d'auditeurs attentifs. Voilà que soudain, on lui amène un homme paralysé sur une sorte de lit ou de natte que portent 4 hommes remplis d'espoir à l'idée qu'il pourra guérir leur ami. Les auditeurs essayent de les repousser, car ils sont très nombreux, même autour de la maison. Chut ! Écoutez bien, car Jésus parle. Alors taisez-vous. Attendez votre tour, tout simplement. Et retirez-vous pour l'instant. Mais tenons à tout prix à amener leur ami paralysé à Jésus. Les 4 hommes décident de contourner la foule et de passer par le toit de la maison, un toit plat, très commun à l'époque. S'assurant de l'endroit précis où Jésus enseigne dans la maison, ils enlèvent quelques tuiles juste au-dessus et au moyen de cordes, ils descendent leur ami en face de Jésus. Si par manque de courtoisie ou de compassion, les gens ont vraiment refusé de laisser passer le paralytique lorsque celui-ci se tenait à la porte avec ses 4 amis, les voilà qui s'écartent maintenant. Ils s'écartent devant lui afin d'éviter que le lit ne leur tombe sur la tête. Surtout pour éviter que le lit pourrait les blesser. Et Jésus regarde l'homme paralysé, et il lui dit « Sache que tes péchés sont pardonnés. » Verset 5. Les théologiens juifs présents, très offusqués par ces propos, se mettent tout de suite à marmonner entre eux. Voyons, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, le Dieu de Moïse uniquement? Cette question, pour la forme, revêt une importance capitale et mérite que nous y attachions un peu. Voyez-vous, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Simon Wiesenthal avait fait partie d'un groupe de travail forcé dans le terrible et tristement célèbre camp de concentration d'Auschwitz. Tous ses parents avaient été tués. Un jour, on le conduisit sans ménagement dans une pièce où se trouvait un jeune soldat allemand. Ce dernier avait peut-être 19 ans. Il était grièvement blessé et il était sur le point de mourir. Or, le jeune homme avait demandé à parler à un juif avant de mourir. Et dans la providence de Dieu, c'est Wiesenthal qu'on lui avait amené. Le soldat agonisait. Il était là agonisant. Il était terrifié à l'idée qu'il était sur le point de mourir, car il savait qu'il allait bientôt se trouver devant Dieu. Oui, il savait bien ce que les nazis avaient fait aux Juifs, et ce dont lui-même s'était hélas rendu coupable envers eux. Or, face à l'éternité, le jeune soldat allemand a demandé à Wiesenthal de lui accorder le pardon. Il le prenait en fait comme un représentant de la race juive. Wiesenthal eut le plus grand mal à décider de la réponse à donner à cette demande désespérée. Son raisonnement était à peu près le suivant. N'est-ce pas la partie offensée qui seule a le droit de pardonner? Comment ceux qui n'ont pas souffert peuvent-ils accorder le pardon au nom de ceux qui ont souffert? Puisque la grande majorité des victimes des nazis ont été tuées par millions, comment ceux qui ont survécu peuvent-ils accorder automatiquement le pardon au nom des morts? Il n'y a donc pas de pardon pour les nazis. Et dans cette pièce étroite, en présence de ce jeune soldat nazi qui agonisait, Wiesenthal retournait ses questions dans son esprit et finalement, sans dire un mot, il tourna les talons et sortit de la pièce. Après la guerre, il relata cette expérience dans un petit livre mémorable intitulé « Les fleurs de soleil ». Pardonner l'impardonnable. Je répète, pardonner l'impardonnable. Et il y avait consacré un bon nombre de pages à décrire comment la demande de ce jeune soldat nazi l'avait tourmenté. Il envoya son ouvrage à plusieurs spécialistes des sciences morales en leur posant cette question: ai-je eu raison ou ai-je eu tort? À mon tour maintenant de vous poser la question: Wiesenthal a-t-il eu raison ou a-t-il eu tort? Certes, nous ne pouvons être en désaccord avec sa réflexion selon laquelle seule la partie offensée a le droit de pardonner. Souvenez-vous de l'illustration que j'ai employée au CD numéro 2, en lien avec Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Elle sert donc à éclairer la question que soulève Wiesenthal. Il s'agit d'une occasion où une bande de voyous vous attaque et vous laisse même comme mort. Je vous rends visite à l'hôpital le lendemain et je vous dis: prends courage, car j'ai retrouvé ceux qui vous ont attaqué et je leur ai tout pardonné. Et vous me répondez: mais que je n'en ai pas le droit, que ce n'est pas moi qui a subi ces violences. Qu'est-ce qui me donne le droit de croire que je peux pardonner à quelqu'un pour ce que vous avez subi, même si vous êtes le prêtre le plus illustre du monde? Vous n'en avez pas le droit. Bien entendu, vous auriez raison, tout comme Wiesenthal avait lui-même raison. car la partie offensée est en droit de pardonner. Toutefois, il omettait de prendre un détail en considération dans ses réflexions, un détail que la Sainte Bible met clairement en relief. Voyez-vous, vous vous souvenez certainement aussi de la sordide histoire où le roi David avait séduit une jeune femme de son voisinage, alors que le mari se trouvait sur le champ de bataille, au service des guerres du roi. Nous avons aussi mentionné ce récit dans notre première CD. Vous vous rappelez les détails et comment David pensait s'en être finalement bien tiré. Or, le moment est venu, toutefois, voilà que le prophète Nathan le confond. Il est possible de tromper bien des gens quand on commet un péché grave, mais on ne pourra jamais, jamais tromper Dieu. Comme le dit Hébreux chapitre 4, verset 13, tout est nu et découvert aux yeux de celui que qui nous devons rendre compte, à qui nous devons vraiment, tôt ou tard, rendre compte. Et Dieu sait ce que David a fait et il envoie son prophète dénoncer les actes commis. Parmi tous les psaumes, l'un des plus remarquables est celui que David écrit après s'être repenti avec d'amères larmes de tout le péché qu'il avait commis, où David dit à Dieu, « Ô Éternel, Yahvé, mon Père céleste, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Chapitre 51, verset 6. Une lecture superficielle donnerait à penser qu'il se méprend complètement. Après tout, il semble ne pas y avoir quelqu'un contre qui il n'a pas péché. Mais si on y regarde de beaucoup plus près, David écrit l'exacte vérité. Ce qui fait que le péché est péché, ce qui en fait une chose si profondément haïssable, si inextricablement répugnante et évidemment condamnable, et qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une offense contre Dieu. N'oublions jamais que d'après Jésus, le premier commandement est celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Ainsi le péché premier, le premier quant à la place qu'il occupe dans l'ordre et le premier quant à son importance capitale, consiste donc à ne pas aimer Dieu de tout son être. C'est ça le péché que nous commettons toujours. Lorsque nous commettons n'importe quel autre péché, dans le sens le plus fondamental, chaque fois que nous commettons un péché, eh bien c'est toujours Dieu, Dieu qui est la partie la plus offensée, que ce soit commettre l'adultère, que ce soit de falsifier une déclaration de revenus, ou d'être enflé d'orgueil, ou de débiter des calomnies, ou de rabaisser un collègue, remarcher, on a beaucoup qui remarchent de l'amertume contre tel ou tel, ou on peut dire certains commettent des péchés graves simplement en naviguant sur leur Internet, sur des réseaux pornographiques, souvent très douteuses. David comprenait tout cela. Il a dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est vraiment mal à tes yeux. » C'est pourquoi, peu importe de qui nous cherchons à obtenir le pardon, il nous faut d'abord et avant tout obtenir le pardon de Dieu. Sinon, nous n'avons rien. Certes, vous et moi devons nous pardonner mutuellement. Cependant, quand nous comprenons de manière plus profonde quelle est l'identité véritable du péché, eh bien nous saisissons que seul Dieu peut vraiment pardonner, et non pas même le plus brillant des prêtres, ou serait-ce même un cardinal, ou un monseigneur, ou voire même le pape. Voyez-vous, en Saint Marc chapitre 2, Jésus accorde le pardon de ses péchés aux paralytiques. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Oui, on pourrait s'interroger là-dessus. Oui, en effet, qui? Alors les paroles de Jésus expriment certainement le délire furieux d'un mégalomane qui se prendrait pour Dieu. Ou bien se pourrait-il qu'il soit véritablement Dieu? Et Thomas se trouvait donc là, il se trouvait là au milieu de cette foule. Les évangiles synoptiques sont le premier contexte élargi dans lequel sont insérées les réflexions de Thomas. Mais ce dernier doit se rappeler un tout autre contexte plus étendu au cours des 8 jours entre les dimanches où il exprima ses doutes et celui où Jésus apparaît de nouveau dans la maison aux portes fermées. Il se mémorise maintenant divers passages de l'Ancien Testament qui tout à coup commencent à revêtir de nouvelles significations. Thomas connaît sans doute les mots que nous récitons à chaque fête de Noël, que un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ésaïe chapitre 9, verset 5. 700 années avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe avait décrit ce que l'Éternel va faire. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Avant d'ajouter dans ce même contexte, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Comment s'y prendre pour réunir tous ces éléments-là? Thomas dispose donc d'une semaine entière pour remuer tout cela dans sa tête. Il est certain qu'il est encore incapable de concevoir ce qu'on appellera plus tard la doctrine de la Trinité. Mais il a suffisamment progressé dans son entendement pour comprendre vraiment que si Jésus est véritablement vivant, eh bien cette résurrection, tout spectaculaire qu'elle soit, représente bel et bien que cela, c'est une véritable, une visitation véritable du Dieu Tout-Puissant. Troisièmement, nous ne pouvons probablement pas en dire beaucoup plus en ce qui concerne les croyances de Thomas. Les données textuelles ne permettent pas d'affirmer qu'il soit, sitôt après la mort de Jésus, en mesure de saisir toute la portée théologique de sa confession. C'est à savoir que celui qu'il appelle Seigneur et Dieu a effectivement goûté la mort. Et quelle mort ! Crucifié, après avoir été condamné par le gouvernement romain, pendu au bois, sous la malédiction divine, mais clairement justifié absolument du fait de sa résurrection d'entre les morts. Nous ne pouvons pas être tout à fait certains quant à la mesure de la compréhension de notre ami Thomas à ce moment décisif de sa vie. Mais l'apôtre Jean, l'évangéliste, il comprend bien davantage au moment où, quelques décennies plus tard, il apporte ces événements dans son livre. En effet, il a déjà annoncé que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, chapitre 1, verset 29. Il l'a comparé au serpent placé sur une perche pour sauver le peuple de Dieu du terrible jugement qui est tombé sur eux à cause de leur abominable révolte. Chapitre 3, verset 14, et le livre des Nombres, chapitre 21. Il compare donc Jésus à du pain. Le grain de blé meurt, dit-il, et les humains peuvent en vivre. Ou si rien ne meurt pour procurer de quoi vivre, les gens doivent eux-mêmes, hélas, mourir. Jean rapporte donc aussi que même le souverain sacrificateur Caïphe, dans la providence de Dieu, tient un discours prophétique lorsqu'il déclare que Jésus doit mourir afin que le peuple de Dieu ne périsse pas. Des mots dont la signification inouïe, évidemment, lui échappe totalement. Mais Caïphe réclame la mort d'un substitut et il obtient infiniment plus que ce qu'il s'attend à recevoir. Notez Saint Jean, chapitre 11, versets 49 à 51. Jésus, souvenez-vous, il est le grain de blé. Chapitre 12, versets 23 et 24. Le brin de blé qui, lorsqu'il meurt, se multiplie dans la vie nouvelle qui jaillit de sa mort. Ainsi, lorsque l'apôtre Jean rapporte les paroles de Thomas, il voit certainement le merveilleux qui se conjugue au merveilleux. Plus de 2000 ans plus tard, en lisant ses propos, nous voyons aussi, et nous sommes pénétrés non seulement de cette notion ahurissante que est l'incarnation, c'est-à-dire de Dieu devenu homme, mais aussi de l'effroyable réalité que ce Dieu-homme est mort en qualité de substitut. Il a subi la mort d'un agneau rédempteur. Il est donc tout simplement stupéfiant de contempler le Dieu de la Bible alors qu'il devient homme, mais encore plus de le voir mourir à notre place, puis être justifié par la résurrection.